B de la troisième cassette, en train de souligner quelques-uns des multiples bienfaits de l'amour du prochain. On pourrait dire en quatrième lieu que cet amour du prochain est une source de paix profonde contre toutes les guerres intérieures ou extérieures. La charité nous fait tout prendre tranquillement. Et comme dit un proverbe, les gens comme ils sont, le temps comme il vient et l'argent pour ce qu'il vaut. Quand on aime vraiment son prochain, sans discrimination, sans restriction, c'est fini le temps des bruits, des tensions, des discussions, des mécontentements. Fini le temps des ennuis, des tracas. On n'a plus de remords de conscience d'avoir mal parlé, d'avoir agi contrairement à la charité. S'installe donc en notre être une oasis de paix profonde. Il pourra y avoir des malentendus, certes, autour de nous, des intentions plus ou moins bien comprises, des divergences de vues. Mais si la charité est gardée, tout rentrera dans l'ordre et tout disparaîtra rapidement. En cinquième lieu, l'amour du prochain est un agent puissant de perfectionnement chrétien. On sait comment l'attachement aux choses créées et les manquements à la charité sont deux grands obstacles à la perfection chrétienne. Mais si la charité est observée, c'est l'envol vers les hauteurs. Que de consolation aussi dans la prière et l'Eucharistie pour ceux qui pratiquent la charité. Au contraire, que de sécheresse et quel manque d'attrait dans la communion pour ceux qui n'observent pas la charité. L'Eucharistie, ce grand sacrement de l'amour, c'est évident que si on ne vit pas dans l'amour, ce sacrement n'a pas toute sa saveur. En sixième lieu, disons que l'amour du prochain est une assurance pour l'heure de la mort. On trouve dans Saint Matthieu, chapitre 7, verset 2, ce que Jésus dit, car du jugement dont vous jugez, on vous jugera. Et de la mesure dont vous mesurez, on usera pour vous. Donc les frères les plus dévoués pour leurs frères, et l'amour pas seulement temporel ou matériel, mais l'amour qui aide l'âme spirituellement, eh bien, ces frères se ménagent des gloire particulière dans l'au-delà. Enfin, soulignons que vivre dans la charité à 100%, ainsi qu'avec ses deux inséparables compagnes, la vérité et la liberté, c'est demeurer déjà dans un coin de paradis sur terre. C'est importer ici-bas déjà la vie de l'au-delà. On pourrait citer bien d'autres bienfaits, mais je m'arrête sur ce point car le temps file et nous passons à la septième partie intitulée Ce que la vraie charité chrétienne ne demande pas. Toute notre éducation a été plutôt négative. On nous a dit qu'il fallait pas manquer à la vérité, fallait pas manquer à la charité. Il ne fallait pas entraver la liberté des autres. Et alors, tranquillement, les gens ont pensé que la vertu de charité ou la meilleure manière de pratiquer la charité, c'était d'apprendre à ne pas voir ce qui est de travers, à ne pas dire, à ne pas entendre. Et beaucoup pensent pratiquer la charité en devenant sourds, muets, aveugles ou impotents. Or, la vertu de charité fraternelle et communautaire, ce n'est pas une vertu par abstention des manquements. La charité, c'est une vertu active de rayonnement et de partage de l'amour. reçu de Dieu pour les autres et reçu de Dieu à travers les autres pour nous, qui s'augmente dès que dans un aller et retour, on partage, on célèbre son amour au milieu de nous. Alors, je dis, pour corriger un peu des excès dans lesquels certaines personnes, croyant bien faire, sont tombées, il ne faut tout de même pas croire que la charité fraternelle nous rend stupides. La charité fraternelle nous rend vrais, nous rend justes, nous rend dans l'amour, mais quand même ne demande pas, ne nous conduit pas au ridicule. Disons d'abord que la charité ne nous demande pas de fermer les yeux sur les défauts, les travers ou les fautes d'autrui. Car la charité n'exclut pas la justice. Elle dirige le cœur, mais n'aveugle pas l'esprit. Et il y aura toujours dans notre société des gens qui ont l'œil trop perçant pour ne pas voir les défauts des autres. Il y aura toujours des gens qui ont beaucoup d'imagination pour en imaginer aussi. Et les personnes en autorité doivent d'ailleurs, par leur mandat, voir, remarquer pour corriger et diriger. Les parents doivent voir les défauts de leurs enfants. Donc, heureuses sont les personnes qui voient toujours les choses, par exemple, du bon côté, c'est-à-dire avec amour, et qui suppose toujours les meilleures intentions. Malheur à ceux qui, par ailleurs, qui voient tout beau, tout bon, mais seulement chez les personnes de leur goût. Donc la charité ne nous demande pas, même la charité chrétienne la plus grande, ne nous demande pas de nous crever les yeux pour ne pas voir les défauts, les travers, les torts des autres. Les reconnaître est même un acte de vérité, de justice, de clairvoyance, de rectitude, de jugement, de discernement. Mais il faut que nous aimions leurs âmes en Dieu, tout en regrettant leurs manquements et leurs défauts, les voyant avec compassion et avec la volonté de les aider. La charité ne défend pas non plus de s'opposer aux torts, aux injustices qu'on veut nous causer, de nous faire rendre justice à nous-mêmes par nos supérieurs ou les tribunaux. Quand notre Seigneur nous dit de présenter l'autre joue à celui qui nous frappe, d'abandonner notre tunique à celui qui nous prend notre manteau, c'est un conseil de perfection et non un ordre qu'il nous donne. Bien plus, quand le bien général est en cause, se faire rendre justice est un devoir rigoureux qui ne court-circuite pas la charité du tout. Troisièmement, la charité ne nous demande pas de voir des qualités où il n'y en a pas, d'en imaginer ou d'en inventer même, sous prétexte d'avoir l'air charitable. Le faire, c'est ou un manque de jugement, ou une flatterie, ou de la partisanerie, mais ce n'est pas de la charité. La charité ne nous défend pas davantage de faire sentir aux autres leurs manquements. Cependant, jamais avec impatience ou par vengeance, ou avec l'arrière-désir d'humilier, de désécuriser la personne, de la dominer. La charité ne demande pas non plus d'estimer tout le monde indistinctement. L'estime et la charité sont deux choses différentes. Elles ne s'excluent pas. Dieu nous ordonne d'aimer tous nos frères il ne nous ordonne pas de les estimer tous aveuglément. L'idéal, c'est d'estimer ce que Dieu estime. Or, on sait que Dieu estime la vertu, la sainteté. Nous devons donc essayer de donner à tous notre estime pour de tels motifs. La charité n'ordonne pas de condescendre au travers, aux torts et aux fautes des autres. On n'est pas obligé d'approuver toujours toutes les actions du prochain ou les dires du prochain. Parfois, il est plus charitable de parler que de se taire. Parfois, nous pouvons et même nous devons dire « Ceci me semble faux. Cela me paraît mal. Ce procédé me paraît une erreur. » Sans manquer à la charité. Lorsque le tort est évident, il faut voir s'il y a scandale ou non à le blâmer. S'il y a scandale, alors il faut généralement se taire. Mais ne pas confondre non plus l'opportunité de faire une monition et la manière de faire la monition. En septième lieu, je dirais que la charité chrétienne, même la plus grande, n'exige pas que nous ne sentions pas ce qu'il y a de blessant dans les mauvais procédés des autres, leur dureté, leurs injustices, l'ingratitude du prochain. La charité chrétienne n'est pas l'insensibilité ni la bêtise, c'est l'amour. Alors, on n'est pas plus charitable si ça ne nous fait plus rien, ce que les autres nous font de mal. Enfin, disons que la charité n'ordonne pas toujours de vivre en bonne intelligence avec toutes sortes de personnes. Il ne faut pas courir après les difficultés. Il y a vraiment des cas où cela est impossible. C'est saint Paul qui dit aux Romains 12-18 « Vivez en paix avec tous, si possible, autant qu'il dépend de vous. » Donc, il y a bien des gens, des fois, qui pensent faire de la vertu en se lançant dans des situations qui deviennent des occasions d'irritation constante et les font manquer à la charité à longueur d'année. Donc, c'est déjà héroïque d'aimer son prochain comme le Seigneur nous le demande, dans l'ordre qu'il nous demande, même nos ennemis, ceux qui nous persécutent. Alors, faisons ça, et ça prend tout l'amour qu'il nous donne pour être capable de vivre ça. Ne nous lançons pas dans des aventures pour lesquelles nous ne sommes pas appelés ou équipés. Passons à la huitième partie. Quelques exemples de moyens efficaces qui ont fait leur preuve, tant pour favoriser grandement le « aimons-nous » que pour résister aux assauts du « mangeons-nous ». Au grand mot, les grands remèdes. Je l'ai expliqué longuement dans l'enseignement sur le « mangeons-nous » et au début de cet enseignement sur le « aimons-nous ». Un climat pollué où il y a manque de vérité, manque de charité ou manque de liberté, quelle qu'en soit la cause ou le degré, conduit toujours au « mangeons-nous les uns les autres, qu'on le veuille ou non ». Et dans un tel climat, le climat de non-vérité, non-charité, non-liberté, qui amène le « mangeons-nous les uns les autres », beaucoup de nos frères et sœurs non seulement sont facilement induits en tentation de succomber, mais plus encore, ils succombent aisément et presque malgré eux, tant les occasions et les pressions sont nombreuses et fortes. Il est fréquent dans le ministère de constater que beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils se présentent au sacrement de réconciliation, démontrent les plus belles dispositions intérieures et extérieures, sincères et admirables, face au « aimons-nous les uns les autres ». Et quand ils quittent l'endroit de la réconciliation sacramentelle, ils sont vraiment disposés à ne pas manquer à la charité, au contraire, à la rayonner, à la vérité, etc., etc. Mais dès qu'ils mettent le pied hors de cet endroit de la réconciliation, l'air vicié de leur milieu de vie et de travail les assaille à nouveau et les fait rechuter. À la vérité, je le dis, sans recourir à des moyens précis, efficaces et éprouvés, beaucoup n'en sortent ou n'en sortiront jamais. Du moins tant que l'air au complet n'aura pas été dépollué de ce mangeons-nous, il faudra que chacun, chacune apprenne à se protéger et à se prémunir. Alors, comment faire ça? Vous le savez, nous le voyons souvent dans les journaux, que dans les cas d'une marée noire, immédiatement, les experts installent ce qui s'appelle des barrages flottants pour empêcher le pétrole ou la nappe de pétrole de s'étendre. On appelle ça des barrages flottants ou des barrières flottantes. C'est la même chose en face du « mangeons-nous » en général ou en particulier. Il nous faut prévoir des moyens de restreindre cette expansion de ces mers de boue, de cette tendance au « mangeons-nous ». Et si vous me le permettez, afin de ne pas nous entraîner dans la considération de belles théories plus ou moins applicables ou de simples rêves en couleur, je vais une fois de plus aller puiser dans mon, notre, vécu bien vécu, et vous parler non seulement d'abondance du cœur, mais également d'une abondance d'expériences qui sont au cœur de nos vies, et se sont avérées des plus heureuses et rentables spirituellement. Tant d'une part, pour faire échec et mat au mangeons-nous, que d'autre part, pour donner un essor formidable au aimons-nous les uns les autres, au cœur de nos milieux de vie et de travail, et je dis bien depuis des années. Durant les 30 premières années de ma vie sacerdotale, j'ai successivement expérimenté trois types de zones de protection, de barrières flottantes, pour ainsi dire, établies et définies dans le but précisément d'accorder à ceux et celles qui acceptaient de monter à bord l'équivalent d'une oasis de charité, de vérité, de liberté chrétienne, à leur meilleur, dans laquelle oasis, tout mangeons-nous était non seulement exclu à perpétuité dès le point de départ, mais devenait impensable et impossible en cours de route. Je n'aurai pas le temps de les expliquer au long et au large, mais je vous les énumère au pas de course. Ce furent d'abord ce qui s'appelait des équipes sacerdotales, que j'ai eu la joie de fonder avec deux autres séminaristes, et d'en être le premier de cordée dès ma première année du grand séminaire. Ces équipes sacerdotales se sont multipliées en très grand nombre, et leur vague ou leur vogue a duré, semble-t-il, 20 ans. Et à l'intérieur de ces équipes, c'était un engagement solennel, le « aimons-nous » à son meilleur. Ce furent ensuite, dans les années 50, les équipes sociales, qui, celle-là, était ouverte, un peu dans le style des équipes sacerdotales, mais ouverte aux laïcs, aux religieux, aux religieuses. Et ces équipes ont eu une vague et une vogue d'une vingtaine d'années également. Et enfin, j'ai connu une expérience, une fois devenu secrétaire général de l'épiscopat, j'ai proposé à mon entourage de travail, mon entourage immédiat, selon une autre formule, d'établir une aire A-I-R-E, de protection sans pollution, c'était un engagement d'honneur par tous les membres du staff de vivre le « aimons-nous » de façon héroïque et exemplaire. Et cette ère de protection s'est avérée un succès, et même un point d'honneur pour tous, comme il faisait bon y vivre, sans crainte des critiques, des jugements, des comparaisons, des frictions, des diffamations. Un « aimons-nous » les uns les autres de haute gamme, qui se vivait, se goûtait, s'appréciait vivement au bureau même du secrétaire général de l'Épiscopat. Et ça a duré une douzaine d'années. Et dès que cela s'est su, dans l'ensemble du secrétariat général, plusieurs ont demandé s'ils ne pourraient pas s'y joindre. Deuxième étape, très éclairante sur le plan des expériences, c'est depuis l'origine des fondations, il y a 16 ans déjà, comme le temps passe, ce climat pur et serein de la charité, de la vérité, de la liberté chrétienne, intégré toutes trois au maximum, en toute vitesse avant, full speed ahead, et dans tous les azimuts, c'est-à-dire direction et occasion, est chose acquise, à demeure, et préservée comme la prunelle de nos yeux. Ce geste de foi, une fois posé, cette conviction généralisée, le Seigneur a même mis au cœur, nous a même mis au cœur progressivement trois moyens supplémentaires pour consolider le tout. Et ici encore, j'irai au pas de course pour vous les énumérer sans trop les détailler. D'abord, il nous a demandé, suggéré, de faire un vœu de pratique exemplaire et héroïque de la charité fraternelle et communautaire, exemplaire. À ce propos, il nous a d'ailleurs enseigné tout un vin nouveau, admirable et assez révolutionnaire, concernant la théologie des vœux. Et alors ce vœu est facultatif, renouvelable chaque année. En pratique, la très grande majorité s'y engage dès qu'ils en sont informés ou formés. Ensuite, le Seigneur nous a mis dans le cœur un autre vœu, celui de se rendre de plus en plus disponible pour, moyennant bien entendu ses saintes grâces, accueillir, connaître et partager inconditionnellement le parfait amour trinitaire de Dieu et son infinie miséricorde. Et c'est la même chose, ce vœu est renouvelable chaque année. Enfin, il nous a mis l'inspiration d'un retour à la prière de Saint-Michel-Archange. C'est un texte traditionnel, on a adopté le texte traditionnel de cette prière qui a été complété par deux paragraphes, où Saint-Michel est prié de nous enseigner et de nous accompagner dans cette lutte au combat spirituel. Réintégrer dans sa vie, donc, la dévotion et la prière à Saint-Michel-Archange. Car vous savez que le fait de vouloir vivre intensément et assidûment le « aimons-nous les uns les autres », cela nous place, veut-veut pas, sur un pied de guerre face aux forces adverses. Or, Saint-Michel est un as et un héros dans l'art du combat spirituel. Malheureusement, cette prière, qui avait été recommandée par Léon XIII, a été supprimée comme ça, du jour au lendemain, à l'occasion des réformes liturgiques de Vatican II. Je me permets ici de faire un oracle de bonheur concernant ce premier vœu de la pratique héroïque et exemplaire de l'amour fraternel et communautaire. Je prophétise que seuls vont durer et renaître pour de bon, avec d'innombrables nouvelles vocations, les communautés religieuses anciennes ou récentes qui vont avoir le courage de faire ce quatrième vœu, en plus des trois autres vœux de religion qu'ils font déjà, vœux d'obéissance, de chasteté, de pauvreté. Vous savez, les communautés religieuses n'ont pas été démolies ou affaiblies par les assauts mauvais contre la chasteté, pauvreté et obéissance surtout. Mais Judoka a contourné ces trois grands vœux de religion et a semé le trouble et la désunité dans les communautés par le manquement à la vérité et charité. J'ai d'ailleurs eu l'occasion, une nouvelle communauté ici, canadienne, Myriam Bethléem, de suggérer à la fondatrice de faire ce vœu de charité. En résumé, il faut assumer soi-même d'abord toute la responsabilité de sa propre survie en ce domaine. Se créer des aires, A-I-R-E-S, donc des aires, des zones de protection, où le mangeons-nous est banni pour de bon, explicitement, impitoyablement, et où le aimons-nous est désiré, accueilli, cultivé, apprécié. Il n'y a vraiment rien qui empêche un couple, une famille entière, un milieu de travail, un évêché, un monastère, un groupe, de prendre une telle option du jour au lendemain et de se l'imposer mordicus et de le réclamer de quiconque les visite. Croyez-moi, foi de Mathieu, depuis 1943, donc 48 ans, je n'ai cessé d'en faire l'expérience concluante. Par des formules variées et variables, je vous en ai donné des exemples, des formules souples et efficaces, avec les plus grands profits. Et je n'ai rencontré aucune difficulté à y intéresser des volontaires dans mon entourage. Car, en fait, vous savez, au fin fond, tout le monde le désire. J'ajouterais que c'est joliment plus facile à vivre que de vivre sous l'égide du mangeons-nous. Car dans un climat où surabonde le aimons-nous, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la joie. J'admets que, alors donc, on peut s'accorder ça à domicile sans aucune réserve, s'il faut, évidemment, surveiller de près ce climat. Le combattre hors de soi ou au milieu des autres, c'est un peu plus compliqué, c'est toujours plus difficile, c'est plus gênant, c'est sûr. Mais si on le vit en plein, à domicile, on n'a qu'à sortir avec son équipement, un peu comme avec un masque anti-gaz. Et trois attitudes peuvent nous aider à prolonger à l'extérieur de chez soi cette attitude du climat à la maison, du « aimons-nous les uns les autres ». D'abord, si on y croit vraiment au « aimons-nous » et qu'on le vit intensément à la maison, partout où on passe à l'extérieur, très tôt, ça se perçoit par les autres et ça rayonne sur son passage. Deuxièmement, si on le pratique à la maison, on a un droit acquis d'indiquer ailleurs, à l'occasion, avec doigté, avec amour, charité, tout ce que vous voulez, liberté, on a le droit d'indiquer aux autres qu'on est allergique au mangeons-nous les uns les autres. Comme on irait chez des amis et que si on est allergique au poil des chats, de dire tout simplement, écoutez, y aurait-il moyen de demander au chat de sortir? J'ai une allergie. Il n'y a pas de honte à avoir ça. Mais alors, déclarer son allergie à bon entendeur salut, comme on le fait vis-à-vis les histoires inconvenables ou la boisson ou toute autre allergie. Et enfin, si on croit en plus à la portée des ministères invisibles et qu'on y recourt dans ses courses à l'extérieur, on peut neutraliser au fur et à mesure une foule d'assauts du « mangeons-nous les uns les autres ». Passons maintenant, si vous le voulez bien, à la neuvième partie, l'unité dans la diversité. Et dans cette neuvième partie, nous allons voir deux points, deux thèmes plus particuliers. La perception et l'acceptation des diversités en nous et autour de nous, et ce qui s'en vient sur le plan des diversités nouvelles d'ordre spirituel. Voyons d'abord la thèse générale sur la perception et l'acceptation des diversités, les nôtres et celles des autres. Pour réagir en chrétien devant cette question, pour reprendre l'expression que j'emploie souvent, payons-nous un tour d'ascenseur et montons vers le bureau chef pour aller voir de là-haut l'intention divine et le regard que Dieu a sur toute la question de la diversité ou des diversités dans le monde. Évidemment, ce chapitre portera sur les diversités créées et voulues par Dieu. Là, il ne s'agit pas d'analyser ici les diversités suscitées par des humains pour provoquer des tensions puis des conflits, qui sont souvent le fruit de la haine ou du rejet des autres, et non pas non plus ce que j'appellerais les diversités maringouins, qui sont agaçantes et irritantes parce que c'est pas maîtrisé, c'est pas purifié, c'est pas orchestré. Mais regardons comment Dieu voit toute la question des diversités et essayons d'épouser trois grandes convictions au point de départ, si on veut regarder ça comme lui. La première conviction, d'abord, c'est que comprendre que Dieu a créé et voulu la diversité comme un reflet de son amour et de sa puissance, pour pouvoir susciter en retour un multi-reflet de sa gloire, dès maintenant et pour l'éternité. Donc, il faut agréer de gaieté de cœur et d'esprit la diversité, car elle est dans le plan de Dieu. Ensuite, comprendre que ce qui est pour moi le modèle d'être à devenir, ou mon modèle de vie à vivre, n'est pas le même pour mes autres frères et sœurs. Je ne dois donc pas chercher à les assimiler ou à les identifier à mon ou à mes modèles, à moi, si bon soit-il. C'est un détournement de fond que d'amener notre être à vivre, à penser, à être comme moi. Dieu a délibérément voulu faire de chacun, chacune, un modèle, un chef-d'œuvre, exclusif, hors série. Bien entendu, pour tous, les lois naturelles, les commandements de Dieu, l'Évangile, la morale révélée, etc., sont essentiellement les mêmes. Mais leur manifestation aux lois naturelles, aux commandements de Dieu, l'Évangile, leur évolution, leur rythme de croissance, l'ordre de priorité, d'importance, de mise en place, ne cessent et ne cesseront de varier d'une personne à l'autre. On doit donc éviter d'exiger et d'imposer nos procédés, nos priorités, nos styles, nos étapes personnelles. Enfin, comprendre que Dieu a dessein, a voulu regrouper dans un même couple, une même famille, une même communauté religieuse, un même regroupement chrétien, la plus grande diversité possible d'être différents, et pas seulement différents au point de départ, mais pour qu'en cours de route, cela s'accentue de plus en plus. Ainsi, l'esprit de famille, au sens voulu par Dieu, a d'autant plus de valeur qu'il est très varié, accentué, ponctué, de multitraits diversifiés qui évoluent sans cesse. Donc, l'esprit de famille n'est pas quelque chose de statique, d'acquis, mais d'éminemment dynamique. Donc, le sens profond de la diversité dans le regard de Dieu et d'un chrétien, c'est de rendre gloire à Dieu, à sa toute-puissance qui a été capable de créer tant de diversité, à sa grande bonté et générosité à vouloir nous combler par toutes sortes de moyens différents, et à vouloir faire de chacun, chacune de nous, un chef-d'œuvre unique. Rendre gloire à Dieu pour cela. Et en même temps, d'une pierre deux coups, nous encourager chacun de nous à prendre grand soin de cette part exclusive d'héritage, toutes ces diversités qui nous sont données, à les faire fructifier au maximum, à découvrir par là notre grande complémentarité mutuelle par rapport aux autres et à apprécier celle des autres. Jésus, dans Luc 12, 48, nous dit « À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. » Donc, on n'a pas le droit d'éteindre la moindre diversité en soi ou chez les autres. Pierre, dans sa première épître, chapitre 4, versets 9 et 10, « Le don que chacun de vous a reçu, mettez-le au service des autres, comme de bons intendants de la grâce de Dieu en sa diversité. » Vous savez, plus on y pense, les deux mots « identité » et « diversité » sont des synonymes à toute fin pratique, en nous et chez les autres. Quand je cherche, moi, mon identité de plus en plus, qu'est-ce que je cherche en fait? À affirmer ma diversité propre par rapport aux autres. Et quand je reconnais chez un autre sa ou ses diversités, qu'est-ce que je fais, en fait? Je lui donne la chance de trouver et d'avoir facilement son identité. Plus je m'identifie, plus je me diversifie par rapport aux autres, puis plus je reconnais aux autres leur diversité, plus je leur permets de trouver leur identité. La diversité, donc, nous est octroyée non seulement comme manifestation de la puissance de Dieu et pour un retour multireflet de sa gloire, mais également pour nous empêcher chacun de nous, regardez comment Dieu a été prévoyant, nous empêcher de sombrer dans l'anonymat, me stimuler à devenir une œuvre hors série, à trouver ma propre valeur, me montrer ma complémentarité, m'aider à accepter mes limites sans complexe, parce que je suis un chef-d'œuvre unique que Dieu veut réaliser pour sa gloire. Donc, j'ai fini le temps de me comparer puis de m'évaluer par rapport aux autres. Évidemment, toute cette thèse de la diversité, comme Dieu le veut et comme nous, chrétiens, nous devrions le désirer, subit des menaces constantes. J'en souligne rapidement quelques-uns. Le fait de ne pas d'abord prendre nous-mêmes conscience et apprécier et affirmer notre propre diversité et identité. La société, même l'Église, qui a tendance à uniformiser pour mieux cataloguer, diriger, contrôler, rassembler, dominer. Autant de menaces à la diversité et à l'identité. Les autres, nos frères et sœurs, que notre diversité étonne, embarrasse, contrarie, menace, ce qui les amène à nous combattre, à nous faire douter, à nous les reprocher. Autre menace, le fait que notre éducation ne favorise pas assez la spontanéité, la liberté, la créativité, ce qu'on a toujours confondu trop souvent avec l'originalité, la marginalité, l'excentricité. Le réflexe fréquent chez beaucoup de la comparaisonnite, de la compétitionnite, de la contrôlite, on est toujours à regarder à gauche et à droite pour s'évaluer, alors que notre valeur n'est pas là, elle est dans la fructification de cet héritage qu'on a reçu en exclusivité de Dieu. Et remarquez bien, ça ne conduit pas à l'individualisme, ça. Ça conduirait à du vrai communautaire. On est tombé dans l'individualisme parce qu'on est entré dans la compétition, où on cherche à combattre les autres continuellement. Le fait qu'on n'a jamais appris le sens profond de la diversité et jamais été encouragé à s'en réjouir, à l'apprécier, à s'en féliciter, à la promouvoir. Donc, Dieu nous a donné des talents variés, pas pour qu'ils se heurtent, rivalisent ou se détruisent, mais pour qu'ils s'harmonisent, forment orchestre ou carillon. Pour résoudre les divergences qu'il y a dans un foyer ou dans une famille ou dans un groupement, il ne faut pas enfouir les talents et les diversités ou les atténuer. Un peu comme un violon, une harpe et un piano ne gagneraient pas à être moins violon, moins harpe et moins piano sous prétexte de collaborer avec les autres. Il faut au contraire être plus violon, violon et plus, harpe et plus, piano et plus. La vie communautaire, conjugale, familiale, religieuse, apostolique, ne vient pas d'abord de l'abstention de fautes contre l'unité, mais surtout de l'orchestration harmonieuse des diversités qui doivent être par chacun reconnues, aimées, intégrées. Si Dieu nous a réunis, c'est parce que nous sommes différents et complémentaires, mais pas pour être des virtuoses en solo, mais pour pouvoir contribuer à une symphonie en orchestre. C'est comme dans un orchestre, le nombre d'instruments, la variété, la sonorité ne posent pas de problème si chacun a sa raison d'être à son moment. Mais si un instrument ne donne pas son rendement, éclipse un autre, tout l'orchestre est pénalisé. Alors voilà, mes chers amis, on me fait signe que le temps est écoulé. Nous retrouverons cet après-midi.